7h44 sur France Culture. Comme chaque lundi, un extrait du Superfell de la semaine. Superfell, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux échecs, aux erreurs et aux catastrophes. Et cette semaine, comment Canal Plus est-il devenu Canal Moins avec la prise de contrôle de Vivendi par Vincent Bolloré. Souvenez-vous, ça s'est passé ainsi.
Voilà, je suis maintenant avec Vincent Bolloré, nouveau patron du groupe Vivendi et donc de Canal+. Monsieur Bolloré, bonsoir et félicitations. Pourquoi ? Et pour tout, pour votre parcours, vos succès, votre garde-robe. Enfin, moi, on m'a toujours appris à féliciter un nouveau patron quand il arrive. Hein. C'est l'école TF1.
C'est une bonne école.
De Vincent Bolloré à Silvio Berlusconi, absolument aucun rapport. Vous retrouvez en tout cas Vincent Bolloré dans le Superfell de la semaine que vous pouvez télécharger ou podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h45.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La vague populiste est-elle de retour avec la dizaine d'élections qui se précisent et se profilent en Europe, avec notamment les élections italiennes? Pour en parler, je suis en compagnie de Marc Lazare. Bonjour, vous êtes professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Avant de parler de la politique italienne, Marc Lazare, peut-être une réaction à ce crime raciste que l'on a évoqué dans les journaux, avec donc cette situation qui peut révélé un certain nombre de tensions en Italie.
Oui, vous faites allusion à ce qui s'est passé dans la ville de Macerata où un homme, membre, en tout cas candidat sur les listes de la Ligue Nord italienne, a effectivement tiré sur des migrants qui sont actuellement dans cette ville, des migrants nigériens, et qui a revendiqué haut et fort son acte. C'est effectivement, vous disiez on va parler politique ensuite, mais c'est de la politique, parce qu'immédiatement les réactions ont été très fortes. La Ligue Nord de Monsieur Matteo Salvini ayant déclaré que bien sûr il condamnait du bout des lèvres, mais que tout ça était dû à la présence des étrangers en Italie. Silvio Berlusconi, dont vous avez évoqué le nom hier soir, ou ce matin plus exactement, dans une interview au Corriere della Sera, le grand quotidien milanais, a expliqué qu'il fallait expulser 630 000 de ces migrants et qu'il y avait là une bombe sociale avec leur présence. Et le centre-gauche de Matteo Renzi, le Parti démocrate, a essayé d'abord condamner cet acte et a essayé de donner un certain nombre d'explications. Donc la
Quelles
question...
explications, Marc Lazare?
L'idée, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Italie a été en première ligne et est toujours en première ligne de l'accueil des migrants. Et il y a, je crois, une confusion entre l'immigration et les migrants. L'immigration, c'est les étrangers qui sont en Italie, sur le sol italien, et qui essayent de vivre en Italie. Ça a été un choc pour l'Italie. Il faut savoir qu'en 2016, on estimait, du point de vue des immigrés enregistrés, j'allais dire légalement, légalement, ils sont 5 millions, c'est-à-dire 8 fois plus qu'en 2001. Donc ça a été vraiment un choc migratoire très important en Italie. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, l'afflux des migrants. Et effectivement, cette question est devenue une question à la fois sociale et une question politique, parce qu'un certain nombre de partis politiques s'en sont emparés. Et c'est sans doute l'un des points fondamentaux, pas le seul, mais l'un des points fondamentaux, l'un des enjeux fondamentaux de cette élection du 4 mars.
Et cette élection du 4 mars, lorsqu'elle se saisit donc de la question des migrations, avec la distinction que vous avez faite entre migrants et émigrants, qu'est-ce que les différents partis proposent ?
Alors, du côté du centre-droit, c'est-à-dire, alors le centre-droit qui se présente à ces élections est composé de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, la Ligue Nord, donc Matteo Salvini, son dirigeant, un petit groupe d'extrême droite qui s'appelle Fratelli d'Italia, ce qui veut dire frère d'Italie, qui étant manifestement, selon les sondages, comme la Ligue Nord, en grande progression électorale par rapport aux élections de 2013, puis un petit regroupement de centristes. Et là, la question de la lutte contre l'immigration clandestine, de renvoyer tous les migrants, ou quasiment tous les migrants, d'associer migrants et immigrés à la délinquance, au risque d'insécurité, sachant que 4 Italiens sur 10, d'après toutes les enquêtes les plus sérieuses, estiment qu'il y a effectivement un lien entre immigration, migrants et risque pour la sécurité, voire risque pour l'attentat terroriste. Donc c'est un élément très important. Ça, c'est pour le centre-droit, donc qui fait de la question des migrants et de l'immigration un de ces points clés pour la campagne électorale. De l'autre côté, vous avez le Parti démocrate qui explique qu'il a adopté des mesures extraordinairement fermes contre les migrants pour essayer de réguler le flux et qui en même temps prône une politique d'intégration, d'ailleurs réclamant pour la prochaine législature l'adoption du droit du sol pour les immigrés. Et puis troisième composante très importante, parce que c'est le parti qui actuellement est en tête dans les intentions de vote, le mouvement 5 étoiles qui ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle le business des migrants et de l'immigration. Donc, qui considère que les partis politiques se sont fait plein d'argent grâce aux migrants
et grâce
à l'immigration. Ça ne veut pas dire grand-chose du point de vue de la réalité du concept, si j'ose dire, de Mouvement 5 étoiles, sauf que ça signifie un élément très important, c'est que le Mouvement 5 étoiles, qui essaye de jouer sur plusieurs tableaux, s'adressant à la gauche, s'adressant aux écologistes, s'adresse aussi à tous ces électeurs italiens qui ont cette panique, cette peur aujourd'hui des migrants et de l'immigration et qui, pour le Mouvement 5 étoiles, signifie aussi une politique très ferme en direction des migrants et des immigrés.
Alors on va revenir sur l'ambiguïté du Mouvement 5 étoiles, Marc Lazare, mais auparavant, comment va l'Italie du point de vue économique ?
Alors, écoutez, après des années de récession très importante en Italie, la croissance est de retour. On estime que cette croissance en 2018 sera de 1,4%. Donc, il y a une reprise de confiance, il y a un regain aussi d'optimisme des chefs d'entreprise, il y a une diminution de l'emploi. Au profit, d'ailleurs, si j'ose dire, de la précarisation de ces emplois. Mais, par exemple, le Parti démocrate...
Une réduction du chômage.
Une réduction du chômage, excusez-moi, il est tôt. Une réduction du chômage réel, mais avec des emplois plus précarisés que des emplois à durée indéterminée. Le Parti démocrate explique qu'il a créé 1 million d'emplois. Donc, incontestablement, il y a une amélioration du point de vue des indices et des performances économiques. Mais du point de vue social, le chômage reste très fort. Il frappe essentiellement les jeunes, considérablement, encore plus au sud de l'Italie, et ça aura une implication politique. Les inégalités se sont creusées et la pauvreté s'est largement diffusée, ne touchant véritablement l'ensemble du pays.
Alors si on essaye de faire un lien entre la montée du populisme, et d'ailleurs il va falloir que vous nous expliquiez dans ces différents partis quels sont ceux qui pourraient effectivement être qualifiés de populistes, c'est d'ailleurs compliqué comme travail à faire, le lien entre la montée du populisme et une situation économique dégradée, ça n'est pas aussi simple que cela de faire ce lien en Italie aujourd'hui.
Alors, c'est une question d'ailleurs qui se pose sur toute l'Europe. Est-ce qu'on explique cette montée des populismes uniquement par des critères ou des conditions socio-économiques ou aussi par d'autres critères ? En Italie, je pense qu'il y a le cumul de 3 points, de 3 aspects. Le premier, c'est la situation économique et sociale. Incontestablement, encore une fois, l'Italie a connu une forte récession. Il y a eu véritablement une énorme progression du chômage, encore une fois, creusement des inégalités, développement de la pauvreté. Ça se réduit pour le moment, mais ce n'est pas encore perceptible et perçu ainsi par l'opinion italienne, quand bien même on voit un petit retour d'optimisme par rapport à un pessimisme noir qui a caractérisé l'Italie ces dernières années. Donc ça, c'est le premier élément. À cela s'ajoute un malaise qu'on pourrait appeler culturel, politique et culturel, justement par rapport à cette situation de l'immigration. D'un côté, ce choc de l'immigration, encore une fois, qui aujourd'hui caractérise l'Italie, et encore plus par rapport à l'afflux de migrants qui a véritablement marqué l'Italie et qui a donné un sentiment aux Italiens que l'Union européenne les abandonnait. Et ça, c'est le troisième élément fondamental, Guillaume Hermer, c'est le fait que en Italie, ce pays qui était un des plus europhiles est devenu un des pays les plus eurosceptiques dans l'Union européenne. Ça, c'est vraiment historiquement, quand on regarde l'histoire de l'Italie depuis 1945, donc en prenant un peu plus de longue durée en perspective, effectivement, l'Italie d'europhile est devenue eurosceptique. Et puis, vous rajoutez la détestation de la classe politique généralisée qui continue de caractériser là aussi l'Italie.
Sur le second point, Marc Lazare, sur l'idée qu'il y aurait, je vais le dire avec mes mots, vous me reprendrez, une sorte de crise culturelle qui expliquerait donc la polarisation autour de la question de l'immigration. Il y a une forme de paradoxe qui n'en est peut-être pas un pour vous, c'est le fait que l'Italie a une construction en tant que nation qui est une construction finalement assez récente, avec un grand nombre de tentations autonomistes. Est-ce que finalement, ça n'est pas paradoxal qu'il y ait dans ce pays qui n'est probablement pas aussi centralisé que la France, aujourd'hui, une forme d'inquiétude sur l'identité du pays ?
Oui, c'est une très bonne question, comme on dit. Effectivement, l'Italie est un pays qui a une jeune histoire, hein, dans son unité nationale depuis le milieu et fin 19e siècle. Donc c'est un pays qui a une histoire nationale récente. Oui, vous avez raison, il y a une immense diversité, ce que très souvent les Français ne comprennent pas. C'est pas la même chose d'être italien à Palerme, c'est-à-dire sicilien, et d'être italien, par exemple, en Vénétie. C'est vraiment encore deux choses qui se rapprochent de plus en plus, mais qui ont beaucoup de différences. Oui, il y a des particularités régionales, on y reviendra peut-être, qui se sont manifestées par des référendums récents. Mais en même temps, depuis à peu près le milieu des années 90 en Italie, à cause de ce rapport à l'immigration, de cette question à l'immigration, du fait aussi qu'il y a une sorte de doute de plus en plus fort par rapport à l'Europe qui s'est instillée en Italie, l'idée de qu'est-ce que ça représente d'être italien, qu'est-ce que ça signifie d'être italien, qu'est-ce que signifie la nation italienne, vieille question italienne justement, a ressurgi encore plus. Et l'idée s'est développée de plus en plus qu'il fallait essayer de définir cette nation italienne. Et c'est, de ce point de vue-là, une définition qui oppose presque de manière caricaturale ceux qui considèrent que l'Italie se définit par sa dimension qu'on pourrait appeler ethnique et ceux qui estiment que la définition de l'Italie doit être avant tout politique, on dirait presque selon la fameuse formule de Renan, un plébiscite de tous les jours. Et donc, ce qu'il faut valoriser, c'est la démocratie italienne et sa constitution, ce qui est la position plutôt de la gauche italienne. Donc voilà, ça c'est très fort en Italie. Et je vais vous prendre deux exemples de politique, justement, de cette importance de la nation. Rappelez-vous, en 1994, c'était il y a un quart de siècle, Berlusconi entre en politique et il crée un parti qui s'appelle Forza Italia, qui existe toujours. Allez l'Italie. Ça, c'était très fort. C'était la première fois qu'une formation politique revendiquait comme cela son appartenance à la nation. Et la Ligue Nord, qui est une formation au départ régionaliste, qui voulait l'indépendance de la prétendue Padanie, ou l'autonomie de cette fameuse Padanie, c'est-à-dire de l'Italie du Nord, aujourd'hui, avec Matteo Salvini, a changé complètement de position. Si vous regardez ses logos, si vous regardez ses affiches, si vous regardez toute sa sur son site internet, c'est dorénavant Ligue, tout seul. Il a supprimé le Nord et il essaye de pénétrer dans le sud de l'Italie. Il est déjà fort dans le centre de l'Italie. En quelque sorte, il est une Ligue nationale sur le modèle du Front National en France. Donc c'est un élément qui montre l'importance de cette dimension nationale en Italie.
Puisque vous faites la comparaison avec le Front National, quand vous parlez d'une forme de polarisation ethnique, est-ce que c'est une polarisation religieuse comme en France où la question de l'islam a le rôle en politique, notamment au Front National que l'on sait ?
Alors, il y a une partie de la droite italienne qui explique que pour être italien, il faut être catholique. Et une partie, je dirais, minoritaire des évêques italiens, de l'Église italienne, est aussi sur cette position. Je dis bien minoritaire. Mais la question religieuse est une question compliquée en Italie. Parce que d'un côté, et ça c'est une des grandes transformations liées à l'immigration, l'Italie est devenue un pays qui a plusieurs religions sur son sol. Jusqu'ici, il y en avait toujours eu. Il y avait une minorité de protestants, une minorité juive, par exemple. Mais le pays est fondamentalement un pays catholique pour d'évidentes raisons. Et encore aujourd'hui, l'écrasante majorité des Italiens déclarent être catholiques, quand bien même les fréquentations à la messe a beaucoup baissé et quand bien même nombre de catholiques n'écoutent pas les prescriptions, en particulier du pape et de ce pape actuel.
Mais parce que ça n'est pas vraiment un pape hostile aux migrants.
Ben justement, beaucoup des Italiens qui se revendiquent de la religion catholique ne suivent pas toutes les proclamations, tout ce que dit le pape François sur par rapport à la question de l'immigration.
Ils le trouvent trop libéral à cet égard ?
Oui, absolument, tout à fait, et même tous les rappels que fait le prélat ou le clergé italien, rappelant l'importance de l'immigration pour les Italiens, et parfois le fait que les Italiens ont été victimes de rejet, de xénophobie, de racisme dans les pays, tous ces rappels tombent aujourd'hui dans le vide. Mais quelles sont les deux autres religions qui aujourd'hui sont présentes sur le sol italien ? Tout le monde pense immédiatement à l'islam, non ? La deuxième religion, c'est aujourd'hui la religion orthodoxe, du fait de l'énorme présence, notamment des Roumains en Italie. Et effectivement, la troisième religion, c'est la religion musulmane, et c'est celle qui provoque le plus de tensions et de crispations. en particulier, encore une fois, par la formation de la Ligue dite Nord, mais qui aujourd'hui s'appelle Ligue, et qui, par exemple, interdit la construction de mosquées ou organise des manifestations contre les magasins halal qui existent en Italie.
Et puis, il y a une question que les Français se posent au sujet de la situation politique en Italie, c'est le retour de Silvio Berlusconi, et là, c'est quelque chose... comment dirais-je, de difficile à comprendre, Marc Lazare ?
Oui, alors je sais, c'est la question que tout le monde pose aujourd'hui en France et ailleurs. Attention, Silvio Berlusconi, d'abord, n'est pas éligible. Hein. Il n'est pas éligible, mais il va jouer et il joue déjà un rôle clé dans la coalition du centre-droit. Son parti, Forza Italia, est crédité de 15 à 16% des voix. Alors, ce n'est plus le Berlusconi flamboyant de 1994. Si les intentions de vote sont confirmées le 4 mars, ce sera même le plus mauvais résultat de Forza Italia, de toute son histoire depuis 1994. Et Silvio Berlusconi, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye d'avoir la prééminence dans cette coalition de centre-droit, donc par rapport à la Ligue qui est créditée de 14 à 15% d'intention de voix, contre 4% en 2013, ce qui signifie une droitisation du centre-droit. Silvio Berlusconi veut apparaître comme l'homme majeur de cette coalition, celui qui, en cas de majorité des sièges qui est loin d'être assurée, pourrait jouer un rôle clé dans la formation du gouvernement. Et si jamais ce n'est pas le cas, s'il y a un gouvernement de coalition, d'être l'homme qui tire les ficelles, donc d'être, en un mot, incontournable à partir du printemps prochain.